nouvelle émission de Movies, votre émission de ceux qui vont voir le cinéma en salle. Émission proposée et animée par Hervé Brie.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous évoquerons la grandeur et décadence d'une chef superstar. Et le film, bien sûr, c'est Tar. Dans un genre complètement différent, les quatre cavaliers de l'apocalypse qui viennent frapper à votre porte, c'est Knock at the Cabin. Ce n'est pas souvent que l'on voit une comédie musicale, et cette comédie musicale, c'est La Grande Magie, réalisée par Noemi Lovski. Et comment pourrait-on avoir un film qui n'évoque pas la fraternité, la famille ? Eh bien là, on a la chronique familiale des années qui s'étale des années 80 aux années 2000. Le film, c'est Un petit frère. Voilà, donc tout cela, ce sera pour les films que l'on commentera. Donc.
Tu as oublié Youssef Salem.
Je l'ai oublié, oui, c'est le premier.
On doit en parler aussi, je crois.
Oui.
C'est toi qui l'as vu, je ne l'ai pas vu.
Oui. Youssef Salem a du succès et on comprend pourquoi il a du succès, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, comme à l'accoutumée, dans notre émission, dans votre émission Movies, il y aura forcément la deuxième couche qui nous permet de revenir sur les films qui sont toujours à l'affiche dans les cinémas de la région bordelaise et un peu plus loin, puisque on nous écoute un petit peu partout dans le monde. Alors l'autre partie, en dernière partie de d'émission, forcément aussi, les films que l'on n'a pas encore vus, mais dont on a envie, que l'on souhaite voir, c'est la rubrique dans le viseur. Alors, on parlera également, et c'est Hervé qui nous en parlera, du festival qui se déroule tous les ans à Berlin, c'est la Berlinale, et donc c'est Hervé qui a déjà commencé à préparer ses valises, qui nous en parlera tout à l'heure. Et si on commençait, si t'es prêt Hervé, peut-être pourrions-nous évoquer les Césars, puisque c'est la saison, février-mars, c'est la saison des Oscars et des Césars.
C'est ça, le 24 février, le cinéma français s'auto-congratule, comme d'habitude. Bon, alors je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être si vous vous intéressez au cinéma, ont regardé les nominations qui sont assez attendues, qu'on retrouve dans les différentes sections. Par exemple, pour les films, Encore, L'Innocent, La Nuit du 12, Les Amandiers, dont on avait parlé déjà. Côté acteur-actrice, Laure Calamy, Juliette Binoche, Virginie Efira, Fanny Ardant-Jeanjardin, Louis Garrel, bref, des choses un peu attendues. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait Melville Poupeau, d'après moi, comme nominé dans les meilleurs acteurs. Mais aussi des surprises, ça, je trouvais ça intéressant. Pacifiction, OVNI de plus de 3 heures, d'un metteur en scène qui s'appelle Joël Serra, très peu vu, mais placé tout haut du palmarès, de nombreux critiques et nominé dans plusieurs catégories, plusieurs à 5 ou 6, dont meilleur film et meilleur acteur pour Benoît Magimel.
Ouais, mais là, j'ai vraiment peur, ça arrive très souvent lorsqu'il y a des Césars comme ça, qu'on a un film peu vu par le public, qui apparaît, qui est multi-nominé, mais au final...
On verra, mais si ça pouvait lui donner une deuxième chance
J'espère, parce que je sais que sur la région de Bordeaux, il est resté, je crois, 2 semaines, avec très très peu de séances.
C'est étrange, quand même. Bon, Denis Ménochet est nominé aussi comme meilleur acteur dans Peter Van Kamp. Et alors, il crève l'écran aussi dans l'espagnol Asbestas. Et Asbestas...
Ah bah alors, Asbestas, ça a été sa fête ces derniers jours, puisque nous avons les Césars, et de l'autre côté des Pyrénées en Espagne, ce sont les Goya. Et puis, et ben là, Asbestas a fait une, a raflé un nombre très important de récompenses.
Dans l'acteur français, finalement, Ménochet. Mais il est aussi très bon dans le film Les Survivants qu'on avait vu assez récemment. Hein. Autre super nominée intéressante, je trouve Adèle Exarchopoulos. Elle est exceptionnelle dans Rien à foutre et elle est nominée pour ce film comme meilleure actrice et je trouve ça très bien. Une petite remarque aussi, Les Cinq Diables, où elle est magnifique également, concourt pour un titre également, je ne sais plus trop lequel, je me demande si ce n'est pas les trucages, les trucs comme ça. Et enfin, Bastien Bouillon, remarquable dans La Nuit du 12 et qu'on peut voir actuellement dans Astrakhan, enfin... qui est dans le film qui s'appelle Astrakhan, que nous on a vu, qu'on conseille beaucoup, mais pour l'instant il n'est pas à l'affiche sur Bordeaux. Alors, il doit être ailleurs.
Hein. On se bat, on essaye en tout cas avec nos petits moyens d'arriver à ce qu'il arrive sur les écrans, en tout cas bordelais, des cinémas RSC de Bordeaux, mais c'est pas gagné.
Et Sébastien Mouillon, il est dans la liste des jeunes espoirs. Et on a remarqué aussi comme film étranger, deux qui nous avaient beaucoup plu, Eo d'une part et Klaus d'autre part.
Klaus.
Bon, étranger, c'est belge, donc c'est presque français,
oui,
Klaus.
Oui, et Klaus qui récolte aussi des prix hein, côté Belgique. Et ben, je dirais c'est bien parce qu'il faisait partie de mon trio de tête des films préférés de 2022.
Alors, on parle des films qu'on a choisi de chroniquer aujourd'hui, en commençant par Tar. Tar, qui est à l'affiche depuis une quinzaine de jours et qui reste parce que je pense qu'il a du succès. Je sais pas comment l'appeler. Thriller psychologique, satiré, on peut dire ça comme ça.
Difficile à classer comme film. C'est ce qui fait peut-être d'ailleurs un de ses intérêts. C'est la difficulté d'essayer de le mettre dans une case. Je dirais que c'est tant mieux.
Alors, c'est d'un Américain qui s'appelle Todd Field. Moi, je connais pas du tout son travail précédent, mais j'y regarderai de plus près vu la qualité de la mise en scène repérée dans celui-ci. C'est un film sur le pouvoir et ses excès, sujet d'habitude traité dans le milieu de l'industrie. Je pensais récemment à El Buen Patron, par exemple. Hein. Dans le milieu de la finance aussi, hein, on parle de pouvoir et de ses excès. Je pense au Loup de Wall Street, par exemple. Ou alors la politique. Je pensais à la série, par exemple, House of Cards. Mais là, on se situe dans le milieu artistique, dans les hautes sphères de la musique classique. Il s'agit d'une étude de caractère d'une chef d'orchestre au sommet de sa gloire. Alors, on apprend assez tôt, au début, qu'elle a été disciple de Leonard Bernstein. Elle présente un CV spectaculaire qui nous est donné par un journaliste qui l'interviewe au début du film, où elle parle de son autobiographie qui s'appelle Tar by Tar, rien que ça. Et Tar, c'est son nom de famille. Et son prénom, c'est Ava. Donc le film aurait pu s'appeler Avatar, mais c'était déjà pris. Non, ça c'est une blague. Son prénom, c'est Lydia Tar. Alors, elle est admirée, courtisée, en contrôle total de son art et de ceux qui l'entourent. Elle dirige les répétitions de la 5e symphonie de Mahler à Berlin, où se déroule d'ailleurs la plupart du film. Bref, elle paraît intouchable. Sauf qu'un malaise va s'installer, qu'elle va vaciller pour différentes raisons que vous découvrirez. La mise en scène est assez implacable, je trouve, dans des décors glaçants avec des couleurs froides et des plans souvent très géométriques. Sans doute un peu à l'image de la psyché de ce personnage principal dont on ne peut pas dire qu'il soit très chaleureux. Hein. Alors Cate Blanchett, qui joue Lydia Tar, elle est impériale, pratiquement de chaque plan, avec une gestuelle et des mouvements de visage calculés au millimètre. Moi, j'imagine que pour un metteur en scène, la Blanchett, hein, c'est un Stradivarius, hein, vraiment. Hein. Le rôle a été écrit pour elle, a dit le metteur en scène Todd Field, et j'ai vu aussi, elle est créditée au générique, elle a coproduit le film. Prix d'interprétation à Venise, ça s'appelle la Coupe Volpi, je crois. Hein. Prix d'interprétation à Venise l'an dernier pour ce rôle. Alors, à côté, en assistante transparente et humiliée, notre Noémie Merlant nationale, elle fait pâle figure, hein, mais c'est bien sûr voulu. Hein. C'est vrai que c'est une actrice qui avait un peu plus de punch et d'abattage dans le récent L'Innocent de Louis Garrel.
L'Innocent, oui.
Elle est d'ailleurs nominée comme jeune espoir au César. Donc, film sur la célébrité, donc, et sur la parole aussi. Il y a quand même pas mal de dialogues, voire de monologues assez cassants du personnage principal. Et c'est un film qui égratigne aussi au passage le côté néfaste des réseaux sociaux qui peuvent défaire des réputations avec quelques montages vidéo à charge. Moi, j'y pensais après, on pourrait aussi taxer le film d'être un petit peu réac. Ça m'est venu à l'esprit. Finalement, il montre sans grande empathie la chute d'une femme puissante, hein, comme dirait l'autre, une femme engagée, féministe, lesbienne assumée, mais abuseuse. On dit abuseuse ou abusive ? Enfin, elle abuse dans ses relations professionnelles, un peu comme personnelles. Bon, alors qu'on sait bien que ce sont les hommes qui sont comme ça dans 90% des cas. Il y a aussi quelques tirades qu'on pourrait qualifier disons, d'ironique, anti-woke. Je pense à la scène cruelle où elle remet sévèrement en place un élève qui dit ne pas aimer Bach car c'est un mâle blanc dominant. Bon, voilà. Bon, on avait affaire à une chef d'orchestre plus humaine dans le récent Divertimiento, encore à l'affiche, qui était un genre de feel-good movie, alors que Tar, c'est plutôt feel-bad movie, hein. Moi, j'y ai vu, du point de vue de la mise en scène et du sujet aussi, du Stanley Kubrick là-dedans. Dans la forme, une mise en scène quand même impressionnante, et dans le fond, le filmage d'une obsession finalement, hein, et comme Kubrick l'a souvent fait. Et toi Patrick, tu as vu quoi ?
Alors moi j'ai vu d'abord un grand film, une grande artiste, hein, vraiment là, comme tu le dis, elle est de toutes les scènes et on ne s'en plaint pas. Il y a un gros travail qui est fait sur, et tu l'as dit, sur tout ce qui est cadrage. Hein, les cadrages sont vraiment très très recherchés. Il y a aussi un immense travail sur la bande son puisque Tar devient obsédé par ces petits bruits. Des petits bruits d'alarme. Vous savez, des fois dans une maison, on entend une petite alarme et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ou un bruit qui va venir d'un réfrigérateur qui se met en marche. Ça, cette partie-là, donc cette partie un peu thriller, et je l'ai trouvée assez intéressante parce que justement, elle permet d'amener autre chose que de suivre donc cette femme qui est en train de diriger, de la voir tous les jours. Et puis, bon, il y a ce background avec cette affaire qui va ressortir. Donc ça, j'ai trouvé ça intelligent et intéressant. Le film est long, il fait 2h30, mais
je n'ai pas vu non plus
ces 2h30. Alors, il y a des petites choses qui m'ont amusé. Tu l'as dit, hein, le film se passe essentiellement à Berlin. Et ce que j'ai noté, c'est bien évidemment que elle parle anglais ou elle parle allemand, mais il y a beaucoup de scènes qui, au début, sont en allemand et elles ne sont pas sous-titrées. Comme si ça m'a rappelé un petit peu quand on voyait des westerns, quand il y avait les Indiens qui parlaient dans le fond, ça n'intéressait personne, ils parlaient dans une autre langue, donc inutile de les sous-titrer. Là, je pense qu'ils se sont dit, bon non, c'est pas la peine, c'est les Allemands qui parlent, ils sont dans le fond, ça sert à rien. Bon, j'ai quelques petites connaissances en allemand, j'ai pu comprendre ce qui était dit. Bon, c'était des choses qui n'étaient pas très très intéressantes, hein, qui n'avaient pas forcément nécessité, mais j'ai trouvé ça assez étonnant et assez bizarre. En tout cas, depuis le début de l'année, avec les quelques films, la trentaine de films peut-être qu'on a déjà vus, il fait vraiment partie déjà de ceux qui sortent du lot.
Alors tu sais, j'ai un scoop. Tu sais qui c'est qui devait jouer le rôle aussi de Lydiata ? C'était Audrey Tautou. Elle devait jouer le personnage. Sur l'affiche, on aurait vu Tautou Tar. Tôt ou tard. Non, bon, d'accord. On est mûr pour un remake des grosses têtes sur RG33.
Non, alors là, je serais pas avec toi.
Je l'avais préparé, ça.
Je m'en doute, parce que là, j'ai mis quand même un certain temps à comprendre. Alors, il faut comprendre le Hervé Brie. C'est pas toujours évident.
Yeah. like let's pretend grow like a ride, oh. Not easily offended, not hard to let it go. From a mess to the masses.
Alors, on vient d'entendre le groupe de pop électro Phoenix, bien français malgré son répertoire en anglais. Et il a eu avec cette chanson un Grammy Award en 2009. Et ça, c'est plutôt rare. C'est les victoires de la musique aux États-Unis. Ce groupe a conçu quelques BO pour des films, en particulier ceux de Sofia Coppola. Par exemple, Lost in Translation avec Bill Murray et Scarlett Johansson. La musique était d'eux. Elle aime bien la French Touch, la fille Coppola, puisque la musique de son premier film, qui s'appelait Virgin Suicide, était du groupe R, français aussi. Alors, Intermède People, le leader de Phoenix et le compagnon de Sofia Coppola, mais cela ne nous regarde pas. Voilà, on parle d'un film français maintenant.
Oui, on va parler de Youssef Salem qui a du succès. Alors, Youssef Salem, il a environ 45 ans. Et s'il y a quelque chose qu'il a toujours réussi, c'est de rater sa carrière d'écrivain. Et là, il va avoir une idée qui va lui poser des ennuis, hein, qui va provoquer des ennuis pour lui. C'est lorsqu'il va avoir son nouveau roman, qui là, d'un seul coup, a du succès. Alors, il a du succès parce qu'il s'est inspiré des siens, de sa vie, de sa famille. Et puis, il s'est inspiré en prenant le meilleur et des fois aussi le pire. Alors, ce à quoi il va être confronté, notre Youssef Salem, c'est que le succès arrivant, c'est que les livres tombent dans les mains de sa famille et surtout de ses parents et surtout aussi de son père. Donc c'est la réalisatrice Baya Kasmi, hein, qui nous propose ce film. C'est son second long métrage. Bon, j'avais pas vu le premier. Elle avait déjà Ramzi Bedia comme interprète principale. Le film s'appelait Je suis à vous tout de suite. Bon, je l'ai pas vu, mais elle est surtout connue pour avoir écrit un bon nombre de scénarios pour des productions autant ciné que TV. Alors là, pour évoquer la vie de Salem, la réalisatrice a choisi de nous faire prendre plusieurs fois le TGV. Alors, le TGV entre Paris et Marseille. Et plus précisément, c'est pas tout à fait Marseille, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Port de Boux, qui est une petite localité au bord de la mer, d'ailleurs, qui a été utilisée. La cité a déjà été utilisée dans le film Bac Nord, mais donc dans un film un peu plus violent et où on montrait pas forcément la cité sous son meilleur côté. Donc, d'un côté, on a Paris, c'est là, l'écrivain, il est à Paris, plutôt Belleville, hein, dans son petit studio. Et puis la famille, c'est Port de Boux. Alors, on voit que Youssef, il souffre, hein, quand il est à Paris, dans ce monde de l'édition. C'est pas forcément son monde. Alors que On a son éditrice, interprétée par Noémie Lovski. Elle, alors là, elle se meut avec facilité dans ce monde très rive gauche, bobo. Alors, elle est assez intelligente pour savoir tirer bénéfice du système. Donc là, on a vraiment deux êtres complémentaires qui vont se rencontrer. Bon, je ne vais pas en dire plus. Alors, autant pour elle, ce qui compte, c'est vendre, et peu importe les scandales ou polémiques. Mais, alors, c'est ça qui est intéressant dans le rôle joué par Noémie Lovski, c'est qu'elle aime ses auteurs. À Port Debout, alors, on a donc les parents, hein, je l'ai dit, et on a Abbès Zamani. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je le connais, je l'ai déjà vu dans un film, c'est surtout son phrasé qui me parlait, c'est le cas de le dire, et ça m'est revenu en fin de film, hein. C'est l'épicier de la vie est un long fleuve tranquille. Donc, bon, c'est quasiment plus de 40 ans après. Et là, dans ce film, donc, ce Abbès Zahami, qui joue le père de Youssef, c'est un amoureux fou de la langue française. Il connaît par cœur les dictées de Bernard Pivot. Et Youssef, comme il aime son père, quand il écrit ses livres, il fait quelques fautes pour que son père puisse lui dire et les corriger. Donc on a des moments très drôles là-dessus. La mère, elle est amoureuse de la France. Quand elle nous dit « c'est la France », là, elle a tout dit, hein, donc c'est la France en majuscule. Quant à la fratrie, donc il y a frère et sœur, alors là, chacun a ses petits secrets que ne connaissent pas les parents. Les parents ne savent rien. Bon, vous verrez en voyant le film comment tout ça va évoluer. C'est une comédie. Donc, on se moque beaucoup dans ce film à tous les préjugés qui sont liés aux religions. Et tout à fait au début, Ramsey s'amuse là-dessus avec l'incompatibilité qui semblerait exister entre plaisir et religion. Toute cette partie-là est assez drôle. Le monde bobo de l'édition, bon, on prend bien sûr pour son grade. Avec quand même, en restant bon enfant, on n'est pas dans le style de films comme Arthur Rimbaud ou des choses comme ça. Hein. Bon, alors, moi je trouve que c'est un film où la réalisatrice est toujours bienveillante. On a un héros qui s'appelle Rachid, qui est pas un acteur, mais un participant d'un improbable Koh-Lanta. Donc là, c'est joué d'une façon cabotinée, mais extraordinaire, par Lies Salem, que l'on voit actuellement dans un rôle de colonel pour la France. Donc vraiment, des rôles tout à fait différents. On a une musique très orientale, la musique de Bachar Markhalifeh. Bon, moi, c'est un film que j'ai bien aimé, on s'y amuse, c'est bienveillant. Enfin, franchement, c'est le film qui fait du bien, quoi.
Alors on rigole, tu dis, ouais. Parce que là on va moins rigoler avec la suite.
Tu vas nous parler de quoi ?
Knock at the Cabin. Titre pas traduit en français. Hein. Bon, remarquez, frapper à la porte du chalet, ça le faisait pas trop non plus. Et pourquoi pas toc 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 ? Ça aurait été pas mal, parce que les personnages du film qui viennent frapper à la porte paraissent vraiment toqués.
Mais y a pas une petite comptine qui s'appelle comme ça ?
Knock, knock, knock. Peut-être bien, ouais, crois. C'est peut-être lié à ça. Alors, il s'agit du dernier film donc du réalisateur américain d'origine indienne, M. Night Shyamalan, connu pour proposer des scénarios mystérieux qui manipulent un peu le spectateur, qui adore ça en général, hein, avec des twists surprenants. Alors, c'est bien sûr le cas de son premier grand succès, s'appelait Le Sixième Sens, avec Bruce Willis en 99. Ma fille ne m'a toujours pas pardonné de lui avoir dit la fin du film avant qu'elle ne le voie. Elle m'en parle encore. Hein. C'était le cas aussi de Incassable ou du Village. Donc ce réalisateur, il flirte aussi avec l'horreur, hein, et aborde souvent la question de la foi, de la croyance, du surnaturel. Et c'est un peu le cas dans son dernier film là. Il évoque aussi souvent dans ses films les troubles psychiatriques, la folie. Split, son film de 2016, avait pour personnage principal un multischizophrène avec une vingtaine de personnalités. Alors, de quoi cause Knock at the Cabin ? De la fin du monde, rien que ça.
Rien que ça.
Ouais, j'en dis pas plus, hein. Le pitch sur l'affiche, assez angoissante, on fait un petit peu trop, c'est une phrase du genre Et si vous aviez à choisir entre sauver votre famille ou sauver l'humanité, point d'interrogation. Donc c'est un peu too much, mais finalement ça résume assez bien l'histoire. Hein. Le début est vraiment scotchant et angoissant. Un face-à-face assez inattendu entre une petite fille qui habite avec ses deux papas dans une maison isolée au fin fond de la Pennsylvanie et un type balèze et patibulaire qui fait penser à un ogre, mais très doux et très pédagogue, qui débarque avec trois acolytes un peu allumés pour proposer un marché tordu à cette famille. Toc, 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 donc bonjour, c'est le genre, on est les quatre cavaliers de l'apocalypse, on vous propose un deal. Bon, alors évidemment, on est curieux de voir ce qui va se passer et comment ça va finir, mais je trouve qu'après, le film s'enlise après, par la suite. Donc une entrée en matière impressionnante, le premier quart d'heure, disons, un développement de moins en moins crédible et en plus alourdi par des flashbacks pas très utiles sur la biographie de certains personnages et une fin, allez, un peu en eau de boudin, déceptive par rapport à d'autres films de ce M. Night Shyamalan. Alors, l'acteur quand même qui joue le personnage atypique d'ogre tatoué avec le physique un peu de The Rock, Dwayne Johnson un peu, mais plutôt un tello. Alors lui, il est très bon. Hein. J'ai cherché son nom. Il s'appelle Dave Bautista. Moi, je l'avais déjà aperçu dans des seconds rôles de films de baston. Alors, vu son look de catcheur, hein, on peut pas le louper. D'ailleurs, j'ai vu dans sa bio, c'est un catcheur en fait. Hein. Attention, âme sensible, je pense à toi Patrick, hein. Quelques scènes quand même assez choc, il faut le dire. Hein. Je sais pas si je l'ai bien vendu. Là. C'est-à-dire que moi je suis un peu déçu, moi j'adore ce metteur en scène, j'attends toujours beaucoup de ses films, mais là je suis pas toujours récompensé et là c'est un peu le cas quand même.
Telephone! Oh, something is happening, and you know.
Morceau live entendu dans un disque du groupe The Band avec Dylan au chant. The Band, ils ont souvent accompagné Dylan en studio et en concert, c'est-à-dire une chanson de lui qui s'intitule Ballad of a Thin Man, Ballade d'un homme mince. Alors il y a plusieurs documentaires et concerts filmés de ce groupe The Band. On avait évoqué, Patrick, sur la dernière fois, The Last Waltz, filmé par Scorsese. Il y a aussi plusieurs documentaires sur Dylan, et Dylan, il a été aussi un peu acteur. Moi, j'ai pas vu ce film de Sam Peckinpah qui s'appelle Pat Garrett et Billy the Kid, et il joue dedans, c'est date de 73. Il a même, Dylan, fait un long métrage, mais il est très long, il dure 4 heures, ça s'appelle Reynaldo et Clara. Et puis il y a un biopic que je trouve assez atypique de Dylan qui s'appelle I'm Not There, où le personnage de Dylan est joué par 6 interprètes différents, dont, figure-toi, qui c'est qui fait Dylan ? Cate Blanchett. Elle joue Dylan dans le film de Todd Haynes qui s'appelle I'm Not There. Maintenant, un petit peu de magie, une grande, une petite magie ?
Oui, c'est moi qui vais vous parler de la grande magie. Alors, la grande magie, c'est en France, dans les années 20. Pour situer un petit peu, un hôtel au bord de mer, un spectacle de magie est prévu pour distraire tous ses clients un peu désœuvrés. Et on a Martha, une jeune femme qui semble un peu malheureuse, avec un mari qui est jaloux. Vraiment, enfin, jaloux, c'est pire que jaloux. Hein, je ne sais pas comment on peut appeler...
possessif. Après.
Oui, hein, c'est ça. Et donc, elle va accepter, cette Martha, de participer à un numéro de, vous savez, de disparition. On rentre dans une boîte, on ouvre la boîte, il n'y a plus personne. Sauf que là, quand on va rouvrir la boîte, elle va plus être là. Mais normalement, dans tous ces tours de magie, on referme la boîte et elle revient. Sauf que là, elle revient pas. Bon, alors, le mari qui est... on ne peut plus pragmatique, va exiger le retour de sa femme. Et là, le magicien, qui est un tantinet roublard, va lui proposer, va lui dire « Bah voilà, je te donne une boîte, ta femme est à l'intérieur. Donc, si tu as vraiment foi en elle, eh bien, n'ouvre pas cette boîte. Si tu l'ouvres et que tu n'as pas foi en elle, elle disparaîtra à jamais. » Donc là, pour Charles, va commencer quand même un moment assez compliqué pour cet homme, donc, je disais, hyper cartésien et pragmatique. Alors, quand on regarde l'affiche, hein, vraiment là, au sens propre, on a une très très belle affiche. L'affiche au niveau des interprètes est également très belle, hein, et très prometteuse, puisque on a quand même Denis Podalydès. Alors, on n'oublie pas d'indiquer, parce que c'est toujours marqué sur...
De la Comédie Française.
Il y en a un deuxième. Hein, il y a un deuxième aussi. Il y a Laurence Tucker, qui est de la Comédie Française. On a Sergi Lopez, on a Noé Milowski, on a Judith Chemla, François Morel et la jeune Rebecca Marder. Donc, comment est venue l'idée à Noémie de nous faire ce film ? Elle avait vu une pièce, c'est une pièce d'un Italien, très connu apparemment chez lui, ben, nous on connaît peut-être un peu moins, Eduardo de Filippo. Donc il avait créé cette pièce qui, elle, se situait un peu plus tard, puisqu'elle se situait après la Seconde Guerre mondiale. Donc la réalisatrice... Alors, bon, peut-être elle trouvait que c'était plus cinématographique que de la mettre dans les années 20. Alors, gros avantage dans la pièce, c'est qu'il n'y avait ni danse ni chanson. Et là, Noé Milowski a choisi d'en mettre, de la chanson et de la danse. Et c'est là que je pense que ça m'a posé beaucoup de soucis. Parce qu'au niveau déjà de la chorégraphie, on est... On n'est pas dans le patronage, mais on est dans l'économie de moyens. Hein. C'est vraiment là, on se déplace un petit peu avec un certain déhanchement. Ce n'est pas La La Land, hein, loin de là. Et au niveau chanson, eh bien, il chante. Enfin, il chante. Apparemment, oui, il chante. C'est un bien grand mot. Hein. Moi, je pense que dans ce cas-là aussi, il m'est possible de chanter. Au moins, dans les films de Jacques Demy, soit les acteurs savaient chanter, et s'ils ne savaient pas chanter, ils étaient doublés. Là, ils ne le sont pas. Il y a que François Morel, bon, qui a l'habitude et qui s'en sort à peu près bien. Les autres, faudrait pas qu'ils soient dans une émission, vous savez, là où il y a des gens qui se retournent et qui tapent sur un truc. Là, je pense que personne ne se retournerait.
Je pense alors, que c'est voulu, ça.
Enfin, bon, bah, oh, non. Bon, alors, le début du film, bon, m'a intéressé. Là, je trouvais intéressant de voir cette bourgeoisie qui, il n'y a pas d'autre mot, qui s'emmerde dans cet hôtel de bord de mer et qui attend que ce spectacle du soir. On pouvait en attendre aussi de Sergi Lopez. Bon, là, il en fait pas des tonnes. C'est ce qu'il y a en dessus des tonnes. C'est en dessus. Denis Podalydès, il fait le job. D'ailleurs, bah, lui, dans le film, c'est ça qui fait tout son film, c'est qu'il sait plus s'il est dans la réalité, s'il est en dehors de la réalité. Pour ce cartésien, bah, il va sombrer dans une folie à peu près douce. Mais moi, j'ai pas sombré dans la folie douce, mais j'ai plutôt sombré dans un ennui, hein, total. Alors, en plus, on appelle ça une comédie musicale. C'est pas comme ça que je les vois, moi, les comédies musicales. Mais j'ai l'impression que toi, Hervé, tu as vu autre chose.
Mais moi, je te trouve un peu sévère parce que je trouve le film ambitieux. Pas totalement réussi, c'est sûr. Moi, je pense que l'ambition de Noémie Lvovsky, c'était de proposer un film en même temps léger et grave. Léger, bon, parce qu'il s'agit d'une comédie musicale, dans le milieu des saltimbanques et dans le milieu de la magie. Mais grave, parce qu'ils sont évoqués des choses pas forcément drôles, comme bah, l'amour possessif, la maladie, la mort, la fin d'une époque aussi. C'est-à-dire que la farce vire un peu au tragique, finalement, hein. Alors c'est vrai, ce qui ne fonctionne pas bien comme toi, ce qui m'a dérangé, c'est les interprétations des chansons et les chorégraphies que j'ai trouvées à de rares exceptions près, approximatives on va dire. Hein. Mais je trouve que cet amateurisme est sans doute voulu, mais c'est vrai qu'il paraît maladroit. Du coup on peut reprocher au film de pas bien rendre grâce au talent du groupe Feu Chatterton, qui a signé les partitions. C'est dommage par exemple, et c'est un peu frustrant, que le chanteur du groupe, Arthur Teboul, il est dans quelques scènes, mais il ne pousse la chansonnette à aucun moment. Donc ça c'est un petit peu étonnant. L'ensemble me paraît quand même sauvé par toute une galerie de personnages, soit drôles, soit touchants, interprétés par un très bon casting quand même. Question de drôlerie, moi, le magicien roublard, Sergi Lopez, j'ai trouvé assez drôle. Hein. Noémie Lvovsky en plantureuse assistante, elle est très bien. Ou le personnage interprété par François Morel, réussit aussi. Pour ce qui est du côté tragique, on a... ben, la petite Rebecca Marder, là, en jeune fille malade, le jeune serveur boiteux, émouvant aussi, ou le mari jaloux, dont on se moque au début, mais qui devient de plus en plus pathétique. Hein. Alors, c'est vrai que Podalydès nous en fait un personnage, je trouve, de tragédie assez impressionnant à la fin, finalement. Hein. Une scène qui résume assez bien cette dualité farce-tragédie, le passage de l'un à l'autre, c'est celle où est dévoilé le tour de magie de l'oiseau qui disparaît de sa cage, où on découvre que l'illusion, finalement, a un coup. Mais je vous en dis pas plus. Hein.
Non, n'en dis pas plus.
Et ouais. Le film est également...
Je sais... Il est possible que ça existait
véritablement
à une époque. Maintenant, ce serait...
Le film est également un hommage au cinéma muet. Je pense à la scène, tu vas pas dire qu'elle était ratée, la scène du début très drôle, en accéléré, là, moi j'ai adoré ça. Et puis il y a Méliès qui est explicitement cité aussi. Bon voilà, alors certaines critiques que j'ai lues dans la presse n'étaient pas tendres et vont dans ton sens, Patrick. Hein. Moi j'y ai vu du bon aussi dans cette grande magie, signée de la réalisatrice, donc est attachante. Moi, je trouve cette Noémie Lvovsky. Tu dis Lvovsky, moi je dis Lvovsky.
Y a un L et un V après, je ne sais pas comment tu fais.
Bon. Alors, on parle d'un autre film français maintenant.
Je ne suis pas sûr qu'on va être d'accord là non plus.
Ah, ben je ne sais pas. Moi, je voulais parler d'un petit frère, c'est bien de ça?
Oui.
Bon. Alors, moi, je trouve que c'était une très belle surprise que ce petit, entre guillemets, petit film qui n'a pas grande exposition et qui est porté par une actrice magnifique. Il est signé d'une jeune réalisatrice et scénariste qui vient de la Fémis. Elle s'appelle Léonore Serrail et j'ai vu que c'était son deuxième long métrage. Le premier, que j'ai pas vu, avait décroché la Caméra d'Or en 2017. La Caméra d'Or, c'est le prix du meilleur premier film à Cannes. Un petit frère, bon, on aurait pu l'appeler le film aussi un grand frère ou une mère, puisqu'on y suit sur 30 ans, une trentaine d'années, le parcours d'une famille monoparentale sous forme de triptyque, avec chacune des trois parties signées du nom de chacun des membres de la famille. Premier épisode situé dans les années 80, Rose, c'est le prénom de la maman, qui débarque de Côte d'Ivoire dans la banlieue parisienne avec ses deux enfants de 5 à 10 ans environ. Deuxième épisode, années 90, porte le nom de l'aîné, c'est Jean. Et le troisième, titré Ernest, c'est le plus jeune, donc nous emmène dans les années 2000. Alors Rose, c'est une femme fière et forte, hein, ou du moins qui s'attache à ne pas montrer ses faiblesses. On ne connaît rien de son passé, on se doute qu'il a été difficile, mais on n'en saura pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se place en dehors de toute victimisation. Elle se veut indépendante des hommes, de la famille d'accueil qui la regarde d'un air souvent réprobateur, on va dire. Et elle veut le mieux pour ses enfants, comme toute maman, j'imagine. Mais parfois, pas toujours adroitement. Parfois, elle est un peu maladroite quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un magnifique portrait, en même temps d'une mère courage et d'une femme qui veut choisir son destin sentimental en particulier. Un film gorgé d'émotions, en particulier, moi j'ai trouvé la première et la troisième partie, et cette dernière, elle est avec un acteur il s'appelle Ahmed Silla, il est plus connu comme humoriste, et il joue ici à contre-emploi et avec talent le petit frère vers 25 ans. J'ai trouvé la seconde partie plus faible, et elle m'a paru plus longue, en particulier à cause du jeu des deux jeunes acteurs qui interprètent Ernest et Jean à 15 et 20 ans, que j'ai trouvé moins convaincant dans ce segment. Et je trouve que c'est dommage parce que ça déséquilibre un petit peu le film. Alors celle qui crève l'écran, c'est l'interprète de Rose, qui vieillit à mesure donc que le temps passe. Elle s'appelle Annabelle Langron, et pour moi c'est vraiment une révélation. Et je sais pas, la caméra semble amoureuse, hein, et la magnifie un peu en héroïne de tragédie, et elle a vraiment le port et la démarche d'une princesse africaine, j'ai trouvé, hein. Voilà, donc le film est aussi émaillé discrètement de quelques clins d'œil à la littérature, un peu montrée comme outil d'émancipation, et de drague aussi, d'ailleurs je trouve dans une scène assez drôle. On a des citations ou des références à Ronsard, à Rimbaud, à Pascal ou à Flaubert. On peut penser, peut-être tu as pensé, à du Dardenne avec un petit frère, mais du Dardenne moins grave, moins plombé et plus optimiste. Je pensais en particulier au dernier Dardenne qu'on avait vu, la Tori et Lokita, qui évoque l'immigration africaine aussi, mais particulièrement sombre et désespéré, et là, c'est pas du tout le cas. Alors, je sais que Patrick, toi, tu as quelques réserves sur ce film.
Oui, oui.
Quelles sont-elles ?
Alors, c'est pas comme pour la grande magie, là où tout à l'heure, j'ai pu être un petit peu dur avec le film. Non, avec un petit frère, j'ai trouvé dommage qui est certains points qui m'est un petit peu gêné. D'abord, tu l'as dit, sur la longueur, il y a la partie 2 qui s'intéresse plutôt au grand frère, est assez longue. Oui. Et particulièrement, il y a une scène là, dans une scène où il se perd, où là c'est le moment, la charnière, où il se perd dans la danse et dans l'alcool. La scène est très très longue. Je veux dire que le cinéma, il a l'ellipse. Hein. L'ellipse permet d'éviter ce genre de choses. Alors, ce qui m'a aussi, ce qui est toujours compliqué, c'est quand on voit quelqu'un sur une longue période, puisque là, on la voit sur une presque une trentaine mm-hmm. d'années, hein. au moins une bonne, enfin non, une vingtaine d'années, c'est qu'il faut faire vieillir les acteurs. Alors, autant pour les enfants. Bien, les enfants, en tout cas, pour Ernest, il est joué par trois acteurs différents. Jean.
Oui, je crois aussi par trois.
Jean, non, on le voit pas dans la dernière partie.
Ah, c'est vrai, t'as raison. Ouais.
Donc, il est joué par deux. Mais la mère, elle, est toujours jouée par...
Et t'as trouvé que c'était pas bien fait.
Alors, c'est la scène finale qui est pourtant une des plus belles scènes, vraiment les scènes du film, où là, on lui a mis des lentilles colorées qui ne sont pas celles qu'elle a, enfin les yeux qu'elle a, et les yeux, on ne change pas, hein, les couleurs des yeux, à ma connaissance, ça change pas.
On a la cataracte.
Oui, mais là, enfin, voilà, là, peut-être qu'ils auraient pu faire de la même façon que pour les... pour les jeunes acteurs.
Changer d'actrice.
Ça aurait été possible, parce que j'ai beaucoup, parce qu'elle est très jeune, cette actrice. Donc, autant dans les scènes de début, elle a l'âge du rôle.
Et là, elle a cinquantaine à la fin.
Et à la fin, j'y ai pas cru. Et quand on rentre pas dans un film, quand il y a des choses comme ça auxquelles on croit pas, ben ça peut gêner. Mmh. Alors, Tu l'as dit, hein, moi c'est les deux interprètes d'Ernest qui m'ont intéressé. Le Ernest de 13 ans, qui parle peu, mais que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est surtout, tu l'as dit, c'est Ahmed Silla, que l'on connaît plus pour avoir joué dans des comédies et plutôt sur un registre comique, qui là est d'une très très grande expressivité. On dit ça, express, oui. Enfin, il a une très grande expression. C'est très fin. C'est très fin. Rien que par des mouvements des yeux et des choses comme ça. Et rien que pour ça. Alors, je vais pas dire rien que pour ça, mais ce film, voilà, ces petits moments-là m'empêchent de ne pas le conseiller. Je regrette vraiment qu'elle n'ait pas resserré un peu son film parce qu'il fait 1h57. Franchement, 20 minutes de moins. Et ça aurait été beaucoup plus, je ne vais pas dire efficace, on ne cherche pas l'efficacité quand on fait un film, mais beaucoup plus cohérent, selon moi. Voilà.
Bon, ben finalement, tu l'as aimé.
Oui, mais avec des je suis toujours un peu déçu quand il y a des films voilà, qui ne sont pas loin de faire quelque chose de bien, et tu te dis, mais il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui, en le visionnant, aurait dit, tiens, ça là, tu enlèves un petit peu ça, tu me le... Voilà. Voilà, c'est ça qui m'a gêné. Un petit peu de musique peut-être, non, maintenant ?
Oui.
Ouais.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
J'aurais dû nous écouter.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnon des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ne vienne pas au conseil pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours.
Les mauvais jours, 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 les
compagnon. Non, je dois pas chanter. Il me dit micro ouvert, Patrick, je peux pas chanter alors.
Moi je pense aux auditeurs. Hein.
Donc compagnon, compagnon, c'est tiré du dernier album de Feu Chatterton et on entend ça dans la bande-annonce et dans les génériques de fin de La Grande Magie, la très belle comédie musicale de Noémie Lvovsky. Enfin moi que j'ai assez bien aimé.
Mais si c'était lui qui avait chanté pendant le film, voilà, et pas sur le générique uniquement.
Donc Feu Chatterton, ils ont fait la musique du film. Ça, ce qu'on vient d'écouter là, c'est un texte en fait de Prévert. Et la chanson, elle a déjà été chantée. J'ai entendu la version de Montand également. Montand, plusieurs personnes l'ont chantée.
On a perdu Montand.
Oui. Alors dis-moi, on parle de quoi ? D'une deuxième couche. C'est-à-dire les films qui nous ont bien plu, dont on a déjà parlé.
Oui. Il y a toujours des films qui sont toujours à l'affiche. Alors, bon, il y a ceux que j'ai aimés, ceux que tu as aimés, ceux que nous avons aimés, ceux que tu as détestés.
Ouais.
Donc, par exemple, les Banshees d'Inisherin.
Bon.
Alors,
mais il a du succès, hein.
Oui, il marche bien. Alors, l'Immensita, mais là, va falloir se dépêcher. Mais bon, ça avait été notre petit coup de cœur avec la Penélope Cruz. Hein.
Ouais.
Ça, on avait bien aimé.
Des films plus... quoi qu'il m'en cite, je ne sais pas si ça a eu beaucoup de succès, mais moi je vais parler de Nos Soleils, Verger contre Panneau Solaire. C'était l'Ours d'Or à Berlin 2022 et il est peut-être encore à l'affiche. Tirailleurs, oui. Je ne l'ai toujours pas vu moi, toi tu as bien
oui,
aimé.
Oui, enfin j'ai vraiment trouvé, c'est ce que j'avais dit quand j'en avais parlé, c'est un film qui a le gros avantage de témoigner et de nous révéler des choses que l'on ne connaissait pas forcément.
Historique, tu veux dire.
Et voilà, historique. Après, ouais. Le traitement est peut-être un peu moins fort. Mais bon, c'est un film qui a, et il faut le dire, hein, puisque film français qui, en plus, a dépassé le million de spectateurs. C'est assez extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est Omar Sy qui a,
oui,
quelque
sûr.
Part, aspiré.
Et peut-être les profs d'histoire-géo qui
emmènent
aussi, les élèves.
Oui, aussi, certainement.
Alors, autre français, Divertimiento, sur l'histoire d'une véritable chef d'orchestre qui est apparue dans la banlieue parisienne. Interdit aux chiens.
Oui, un film
italiens.
Particulier puisque c'est un film d'animation.
Oui, et en stop motion, c'est-à-dire avec des personnages en pâte à modeler, en plasticine, qui sont animés. Et c'est un hommage du réalisateur à sa famille immigrée italienne.
Alors, voilà. On a aussi un court-métrage qui s'appelle Babylone, c'est ça?
Trois heures et plus même sur les folles années 20 d'Hollywood.
Alors, j'ai toujours pas trouvé le moment d'y aller. Tout le monde me dit d'aller le voir avec des petites remarques.
En 3h20, tu vas bien trouver quelque chose.
Oui, non, mais je pense que c'est le genre de film qui va forcément m'intéresser. Alors, il y en a un, une comédie.
Oh, bah, comédie, mais drame. Aussi, comédie mélodramatique.
Oui.
Tu veux parler de La Famille Assad?
Oui, ouais. Tu l'avais vu toi?
Oui.
C'est un film très. Alors, mot sympathique, c'est. Je veux dire, c'est un film vivant sur. Avec. Pourtant, en arrière-plan, un tsunami. Mais le traitement qui en est fait, en plus, quand on sait que c'est d'après une histoire vraie, le rend vraiment très sympathique, cette famille Assad.
Alors, on a parlé la dernière fois du film qui s'appelle Astrakhan, qui est peut-être sorti dans certains cinémas en France, mais pas encore dans notre région. Ben, on le remettra dans le viseur quand il sera...
Faut savoir qu'il y a quasiment chaque semaine une quinzaine de films qui sortent. Donc, ça devient difficile. Et en plus, quand il y a des blockbusters, qu'ils soient étrangers ou français, qui monopolisent plusieurs salles, donc Astérix... Bon, Avatar a laissé un peu de place, mais maintenant, c'est Astérix. Et le Cameron, quand même, il s'y remet. Hein.
Oui, ils ont remis Titanic.
Mais ce qui doit être intéressant, quand même, parce qu'il en a refait un traitement 3D. Mmh. Et bon, comme il maîtrise bien, c'est peut-être intéressant.
Pour la France, reste encore un peu à l'affiche,
oui.
Je crois. Hein.
Oui, d'accord. Film aussi sur la disparition et sur un rapport de frères, très, très intéressant.
Le retour des Hirondelles, très belle histoire d'amour entre d'un couple de paysans chinois un peu paria. Tous ces films qu'on vient de citer là, on vous les écoutez, vous en écoutez nos commentaires si vous le souhaitez dans nos podcasts anciens. Vous cliquez sur l'affiche et vous avez nos avis. Dans le viseur, déjà en salle ou sorti aujourd'hui, Emmett Till. J'ai vu que c'était une histoire vraie, la tragédie.
Il est sorti depuis une semaine déjà.
C'est vrai ?
Oui.
Ah oui, d'accord. Tragédie dans le sud ségrégationniste. La montagne, ça m'intrigue un peu, qui a l'air d'être un film fantastique dans les Alpes. Je sais pas, ça a l'air d'être un peu hybride comme film. Quantumania, c'est pas pour toi Patrick, c'est pour moi. C'est le dernier Marvel. C'est Ant-Man contre la guêpe. Ou avec la guêpe, je sais pas. Bon, j'irai peut-être. C'est Marvel, hein. La romancière, le film et le heureux hasard. Je sais pas si c'est un film très vendeur, ça, mais je sais que c'est coréen et je sais que c'est l'ours d'argent Berlin 2022. Donc, a priori, ça fait un peu envie.
Et sorti aussi, c'est aujourd'hui un film que tu avais vu, me semble-t-il, lors d'un, pendant un festival. La femme de Tchaïkovski.
Ah oui, non, mais je vais pas en parler parce que finalement, je l'ai pas trop aimé.
D'accord.
Donc, je le mets plus dans mon viseur. Bon. L'astronaute. Alors, ça, c'est Mathieu Kassovitz, La tête dans les étoiles. Marlowe. Alors, on a un ami qui adore Liam Neeson. Donc, il va s'y précipiter parce que c'est un film noir. Marlowe, c'est le célèbre détective de Raymond Chandler. Et là, c'est avec donc Diane Kruger et Liam Neeson. Et ça a l'air intéressant.
Et je ne vois pas celui avec Catherine Froh.
Eh bien, si, c'est Un homme heureux.
Ah oui.
C'est Catherine Froh et Fabrice Luchini. Histoire apparemment d'un coming out un peu particulier. Je ne sais pas si tu as vu, Patrick, la bande-annonce, mais j'ai rigolé, mais de Juste Ciel. J'ai l'impression que toutes les gags sont dans mais c'est drôle, j'ai rigolé.
Oui, moi,
c'est les bonnes sœurs qui font une course de vélo.
Avec d'autres bonnes sœurs, oui.
Et bon, moi, j'ai rigolé, mais j'ai peur que ce soit tout dans la bande. Il y a un bon casting pour toi.
Oui, j'ai bien aimé quand on.
Ça s'appelle Juste Ciel.
Quand on les voit démarrer faire du vélo, quand il y en a une qui tombe et pour acheter mes je sais pas.
Ghost Therapy. Ça a l'air d'être un peu un film un peu comédie noire teinté de fantastique. Ça me fait envie. Arrête les mensonges. Non, alors, arrête avec tes mensonges.
Alors, moi, déjà, avec le film annonce, on sait déjà ce qui s'est passé.
J'ai l'impression que oui.
Oui.
Sorti le 22, The Fableman. Donc, autobiographie des débuts de Spielberg. Moi, je l'ai vu, Patrick, il y a l'avant-première la semaine prochaine, je crois. Tu pourras aller voir si tu veux. Et puis, L'homme le plus heureux du monde. Ça, j'ai vu la bande-annonce, c'est un drame historique qui nous vient de Macédoine. T'as pas vu beaucoup de films de Macédoine, toi ?
Non, c'est très mélangé comme film. Est-ce que tu pourrais nous parler, parce que là, le temps tourne, de... qui va se passer à Berlin.
Ah, Berlinale. On dit Berlinale en français, mais Berlinale en allemand. La 73e édition qui débute le 16 février, c'est-à-dire demain, donc, et dure jusqu'au 26. Et donc, Movies, il sera toute la semaine prochaine. Le nom allemand, c'est International Filmfest Spiel Berlin. Bon, moi j'ai fait allemand quatrième langue. Ça veut dire Festival International du Film de Berlin, créé en 51 par les alliés occidentaux qui voulaient établir une sorte de vitrine culturelle du monde libre, entre guillemets. Avec Cannes en mai et Venise en septembre, c'est un des trois principaux festivals de ciné international, Grand Raoult. Alors j'ai lu ça m'a étonné, Patrick, que c'était le plus populaire au monde du point de vue du nombre de spectateurs. En 2020, 480 000 personnes. Et pourtant, le prix des places n'est pas donné. J'ai vu, en moyenne, c'est 15 euros le prix de la place. Et il n'y a pas du tout de forfait, de carte comme ça. Hein. Pour donner une idée, il n'y a pas loin...
Si, les 10, c'est pour 150 euros.
Non, c'est pas un prix, ça. Pour donner une idée, il n'y a pas loin de 400 films qui sont programmés dans différentes sections, en exclusivité pour la majorité. Et ils se déroulent dans plusieurs endroits. Le cœur du festival, c'est la Potsdamer Platz avec le Berlin Palace. Alors, ça m'a fait sourire quand j'ai eu le programme, car on avait dit... Ah non, j'ai pas fini, Patrick, mais... On avait dit que notre festival préféré, l'an dernier, c'était celui de Sarlat, en particulier parce qu'il n'y avait qu'un seul lieu. Ce qui est bien pratique, ben là, il y en a 23. Mais je n'ai pas le temps d'en parler, là. Il me faut... Alors, il y a une quinzaine de sections.
Oui, mais comme tu vas y aller pendant une semaine, tu nous en parleras.
Mais je voulais dire que c'était plutôt un festival art et essai, assez pointu. Il y a quand même un petit peu de people. Il y a une rétrospective Spielberg avec tous ses films. Et puis, il y a John Malkovich, il y a Sean Penn, il y a Bono, il y a Kate Blanchett, tiens, Vicky Krebs. J'ai même vu Anaïs de Moustier dans la liste. Et Boris Becker, qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, il y a un documentaire sur lui. Mais c'est bon, je dirai la prochaine fois.
Bah oui,
un petit
bah oui.
bilan, on causera un peu Berlinale au retour.
Non, mais tu dis au revoir maintenant.
Je dis au revoir. Donc, à dans 15 jours. Écoutez notre podcast, l'instantciné.fr. Ben voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. Ah non, je voulais dire aussi, je voulais parler du festival Étoile Filante.
Eh ben non.
Non plus. Bon.